Nous allons donc lire la parole de Dieu. Je voudrais faire avec vous trois lectures. La première dans le livre du Deutéronome, s'il vous plaît, au chapitre 4. C'est un texte où Dieu rappelle ce que les hommes doivent faire lorsqu'ils se seront trompés. Deutéronome, chapitre 4. À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la légèreté, il y a de l'idolâtrie, etc. Alors on va lire le contexte. Deutéronome 4, verset 27. Regardez ce que Dieu dit. Ça peut arriver que quelqu'un se soit perdu dans tout un tas d'affaires qui l'ont éloigné de Dieu. Donc regardez, il y a trois mots qui sont importants dans ces versets qu'on va lire. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là, retenez bien ces trois mots, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. C'est le verset 29, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a une condition, c'est de là, là, à un endroit précis, où les choses se sont mal passées, qu'il faudra se remettre à chercher Dieu. Je vais dire une promesse avec vous, dans l'Épître aux Hébreux, il y a une promesse qui nous parle d'un commandement, c'est lié, souvent les deux se marchent ensemble, très souvent d'ailleurs. Dans Hébreux, au chapitre 11, il y a donc cette promesse qui en même temps le rappel d'un commandement. Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous connaissez certainement très bien ce verset. Nous y reviendrons dans la prédication tout à l'heure. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. C'est la suite qui nous intéresse. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'ailleurs, c'est le titre que j'ai donné à ma prédication. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Ésaïe, maintenant au chapitre 55, notre troisième lecture. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 55. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Nous allons donc voir ce matin ce sujet qui est lié au repos, à savoir que Dieu nous demande de le chercher. C'est un commandement. Chercher l'Éternel. Ce n'est pas une idée, c'est une injonction. Dieu dit à tous les hommes, cherchez l'Éternel. Dimanche dernier, mardi soir, nous avons vu l'importance de comprendre, par exemple, que nous avons à lutter. Nous avons à lutter. Il y a un combat. Pas contre la chair et le sang, nous devons lutter. C'est écrit, nous devons lutter contre les principautés, les esprits méchants. Il y a un combat spirituel. Les chrétiens sont tellement loin de Dieu qu'ils sont loin de s'imaginer ce combat. Donc, ils ne combattent pas. Mardi soir, nous avons vu certaines choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament où, parce qu'il n'y avait pas de prière, eh bien, on a introduit dans le temple tout un tas de choses idolâtres qui ont amené Dieu à s'éloigner du sanctuaire et à être obligé de détruire le temple alors qu'il avait promis qu'il garderait toujours là ses yeux et son cœur. Nous avons vu à une soirée les dégâts qu'il peut y avoir dans le royaume de Dieu lorsqu'une église ne prie pas. C'est très très bien expliqué dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle que c'est le seul nom que Jésus a donné à son Église. Donc, beaucoup de chrétiens ne luttent pas, beaucoup de chrétiens ne prient plus, à part pour eux. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. Vous allez me dire, c'est pas étonnant, puisque ça fait partie des prophéties où il est dit que les hommes abandonneront la foi. Le résultat, c'est que l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Beaucoup ressemblent à cet ouvrier. Cette semaine, je pensais, vous savez, à cet ouvrier, justement, qui voulait entendre la parole de Dieu et qui avait bâti une maison. Il s'appelait des prophètes de venir. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Ils n'ont pas créé un lieu de culte pour créer un lieu de culte. Ils ont créé un lieu de culte parce qu'ils voulaient que Dieu leur parle. C'était ça le but. Et à un moment donné, vous le savez, il a perdu le fer de sa hache. Mais lui, il a eu quand même le réflexe de demander de l'aide pour qu'on retrouve ce fameux fer. Tandis qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu leur outil, ont perdu leur service, mais ils ne s'inquiètent absolument pas de demander à Dieu de l'aide pour retrouver cette ferveur. Moi, je me réjouis, comme Jérémie le disait dans les annonces, de ce que cette semaine, des frères, des sœurs nous disent, écoutez-moi, voilà, moi je veux servir le Seigneur. Je veux retrouver du collier, je veux m'aider. Y a-t-il un besoin? Ah, les ados. Moi, je veux servir parmi les ados. Une femme qui a déjà pourtant plusieurs enfants, qui nous a dit, je veux tout à nouveau trouver ma place dans l'Église. Voilà, cela nous réjouit. C'est des gens qui, pour une raison ou pour une autre, c'est pas forcément qu'ils aient perdu quelque chose, mais des gens qui comprennent que l'œuvre de Dieu se fait avec des hommes et des femmes qui ont envie de travailler. Donc, peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont perdu. Vous avez perdu parce que vous avez perdu ce que Dieu vous avait prêté. Retrouvez-le et que cette prédication vous y aide. Tout cela, bien sûr, ce que je viens de dénoncer, est aggravé par le fait que beaucoup de chrétiens sont aveuglés. Parce que le problème, c'est grave de perdre son outil, mais vous le savez, je vous l'ai déjà suffisamment enseigné, lorsque un péché ne va pas tout seul, ça va toujours s'enchaîner avec d'autres, quand on ne le règle pas. Et c'est pour ça que la Bible dit, tu ne sais pas que tu es aveugle. On ne se rend pas compte que lorsque la négligence nous attrape, nous devenons aveugles. C'est pour ça qu'on a besoin d'être réveillés. Cette semaine, avec les frères qui suivent la formation pour devenir des prédicateurs, nous avons introduit avec cette parole de Dieu qui réveille Zacharie. Il réveille Zacharie parce qu'à un moment donné, il faut que Dieu nous réveille. Pour pouvoir nous parler, il faut que Dieu nous réveille. Parce que si quelqu'un vous parle quand vous dormez, ça vous est déjà arrivé qu'on vous parle quand vous dormez? Vous avez retenu? Non? Ben voilà. C'est ce qui peut arriver, c'est ce qui peut se passer maintenant. C'est-à-dire que vous entendez avec les oreilles physiques. Bon, mais les oreilles physiques, c'est bien. Mais vous n'entendez pas avec les oreilles de votre cœur. Et Dieu a réveillé Zacharie, et Dieu l'appelle et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et vous connaissez Zacharie chapitre 4, il y a tout un travail, et c'est une question qu'on pourrait poser ce matin à chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Spirituellement, que voyez-vous devant vous? Que voyez-vous pour vous? Voyez, on vient de vous présenter quelques projets. C'est important que l'Église ait une vision. Moi, je me réjouis quand je sais qu'on va travailler à ce que M. Olé puisse diffuser la parole de Dieu chez ces milliers de prédicateurs en francophonie qui ne peuvent pas. Parce que nous, c'est facile d'avoir souvent des achats. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne pourront jamais, jamais acheter un seul livre. Nous, ça nous dépasse, ça. Et alors, ne parlons même pas de voiture, parlons d'un livre. Moi, je me réjouis quand je sais que les Peuls, les Gourmandchés, là-bas, au Niger, vont être évangélisés par le travail de monsieur et madame Bordeneuve. Est-ce que ça vous réjouit? Bon, vous voyez, c'est important d'avoir une vision. Moi, je me réjouis quand je sais qu'on a deux jeunes pasteurs qui vont après partir et implanter peut-être des églises. Moi, ça me réjouit. C'est une vision, c'est pas... Que vois-tu? Que voyez-vous? Voyez-vous juste les présentateurs de la TV qui vous disent que ça va aller de plus en plus mal? Ou est-ce que vous connaissez le grand speaker du monde qui vous dit qu'il y a des projets pour ceux qui le craignent? Ça dépend de ce que vous voyez. Dans l'Apocalypse, Dieu avait une parole. L'Esprit dit aux églises. Dieu ne parle pas pour parler. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. D'accord. Mais Dieu a une parole. L'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a des choses à dire à l'Église. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Bien sûr qu'on peut vous prêcher de manière générale. Quelqu'un peut me dire, tiens, monsieur Gau, prenez Jean chapitre 3. Tiens, on a entendu une prière tout à l'heure sur la Samaritaine. Tiens, on pourrait étudier Jean chapitre 4. On peut le faire. Mais ce n'est peut-être pas la parole que Dieu veut pour l'Église. Mais l'Esprit de Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. J'ai à cœur, vous le savez, de prêcher sur le repos. Beaucoup de chrétiens n'ont rien compris à ce qu'était le repos. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas commencé au début. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que si Dieu veut que nous entrions dans le repos, c'est que pour qu'on puisse le servir. D'ailleurs, les trois premiers mots du texte sur le repos, Jésus dit « Venez à moi ». Vous êtes d'accord ? Là, on peut commencer. « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je peux vous dire que les gens du monde seront de plus en plus fatigués et chargés. Sans Dieu, c'est impossible d'être en paix. Mais c'est dommage que les chrétiens soient angoissés, affligés. Il y a des temps d'affliction. Il y a des temps, il peut y avoir un temps d'angoisse. Mais je fais la différence, je l'ai déjà dit, entre une angoisse qui est liée à une épreuve, entre une détresse qui est liée à une épreuve, et puis être continuellement dans les angoisses, continuellement dans la crainte. Donc Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi, c'est pas, coucou, me voilà, je suis là ce matin, je suis là tous les dimanches matin, monsieur Gou, coucou, et on repart, et c'est fini pour la semaine. Venez à moi, je ne pense pas que c'est ça que Jésus a voulu dire. Venez à moi, ça doit être rattaché à ce texte où Jésus dit, demeurez à moi. Quelqu'un qui vient à Jésus va incontournablement faire en sorte de demeurer avec lui. Jésus est-il avec vous le dimanche matin ou Jésus est-il avec vous le lundi matin? Il y a des gens, pour les gens, c'est à l'église. Après, tout le reste, c'est très, très, très secondaire. Je crois que si Jésus est avec nous le dimanche matin, moi, je crois qu'il faudrait travailler à ce qu'il soit encore plus avec nous le lundi matin pour que nos journées de travaux soient des journées de victoire. Est-ce que le Seigneur Jésus peut être encore plus avec nous le lundi matin? Oui. Bon, voilà. On ne peut pas parler de repos sans connecter les choses ensemble. « Venez à moi » doit être rattaché à « demeurez à moi ». Et « demeurez à moi » doit être vécu par cet ordre de Dieu, chercher l'éternel. Donc voilà le sujet de ma prédication, même si l'introduction était un peu longue, c'est pas grave, je voulais que nous comprenions mieux cette injonction de Dieu, chercher l'éternel. On chante souvent à tue-tête, on chante souvent dans les réunions d'évangélisation, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Qui ne connaît pas ce cœur? Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les musiciens, combien de fois l'avez-vous joué? Vous êtes incapable de le dire, c'est clair. Mais si on vous donnait 1 € chaque fois que vous l'avez joué, vous pourriez faire un beau resto, je peux vous le dire. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais pour beaucoup de chrétiens, justement, ils l'ont tellement chanté, c'est devenu tellement familier que ça ne veut plus rien dire. Chercher l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce matin? Chercher l'éternel. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je cherche la bénédiction. Est-ce qu'il est dit dans la Bible, chercher la bénédiction? Et pourtant, il y a des chrétiens, quand ils prient, ils cherchent la bénédiction. Ils pensent qu'à eux. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. C'est pas ça qui est demandé. Est-ce que Dieu veut bénir? Oui, Dieu veut bénir. Mais il n'est pas demandé chercher la bénédiction, chercher votre avantage, chercher des faveurs personnelles, chercher votre intérêt, etc. Vous avez lu les évangiles? Et vous avez vu que l'homme n'a pas beaucoup changé depuis les évangiles. Même si aujourd'hui il y a des iPads, des ordinateurs, le cœur de l'homme n'a absolument pas changé. Vous lisez les évangiles et vous êtes étonné de voir que des multitudes d'hommes et de femmes cherchaient Jésus uniquement pour ce qu'il pouvait leur donner. Uniquement pour les guérisons, uniquement pour les miracles. On pourrait prendre des tas de textes, je pense aux 10 lépreux, ils sont venus vers Jésus parce qu'ils voulaient la guérison. D'ailleurs, quand ils ont été guéris, il y en a combien qui sont revenus sur 10 s'occuper de leur âme? Il y en a un qui a compris qu'il y avait plus que la guérison physique, mais qu'il y avait la guérison spirituelle. Voilà, il n'y en a qu'un, 1 sur 10. Eh bien, je veux vous dire, la proportion, c'est exactement la même depuis 2000 ans. À part à des périodes où les hommes ont peut-être plus cherché Dieu. Mais moi, je peux vous dire que l'homme n'a pas changé. Il ne cherche pas Dieu, il cherche la bénédiction. Je vous dis, ça n'a pas changé. Alors, qui doit chercher l'éternel? Vous avez votre Bible ouverte toujours dans Ésaïe 55. Qui doit chercher l'éternel? C'est une question que Dieu nous aide à répondre. Ou Dieu nous aide. Regardez, Ésaïe 55. Cherchez l'éternel, invoquez-le, que le méchant abandonne sa voie. Donc, vous avez déjà là une réponse, que le méchant, c'est quoi le méchant? Le méchant, je l'ai déjà dit et je l'ai déjà expliqué, c'est le chrétien D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il retourne à l'Éternel. S'il faut retourner à Dieu, c'est qu'on y avait déjà été. Vous le voyez comme ça? Quelqu'un qui retourne à Dieu, c'est quelqu'un qui avait déjà été avec Dieu. Vous le voyez avec moi? Bon. Qu'il retourne à l'Éternel. Le méchant, c'est un chrétien qui n'a plus de piété ou qui n'a pas de piété. Et il y en a. Vous le savez. D'ailleurs, on en a tous été très malheureux de discuter avec des gens et on se rend compte au bout d'un moment qu'ils n'ont pas de piété. Vous avez jamais été malheureux? Ça vous est jamais arrivé de voir des gens, vous discutez avec eux et au bout d'un moment, vous vous rendez compte, il n'y a aucune piété. Ou alors même, vous leur parlez du Seigneur, vous les agacez. Ça vous est jamais arrivé d'agacer des gens, des chrétiens? Quand vous leur parlez de Dieu, vous sentiez qu'ils avaient envie de parler d'autre chose. De la dernière chanson de, je sais pas moi, de telle vedette. Ah, ça c'était intéressant. Ah, de la prochaine voiture. Ah, tel design, telle couleur. Ça c'est important. Ça c'est important. Les prochaines vacances. Le prochain instrument de musique qu'achètera mon fils. Ah, ça c'est important. Mais il y a des gens qui n'ont pas de piété. Et Dieu est là pour nous aider, vous le savez, que le méchant abandonne sa voie. Celui qui n'a pas de communion. Et je nous pose la question. Est-ce que vous avez une communion avec le Seigneur? Est-ce que vous avez une communion? Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent « Bénis-moi ». Je pense qu'à des moments, on a besoin de lui dire. On peut lui dire ne dites pas, M. Gou a dit qu'il ne fallait pas dire « Bénis-moi ». Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y a des chrétiens qui ne disent que ça. Je crois qu'un chrétien peut demander à Dieu la bénédiction. Écoutez, si vous connaissez Dieu, vous savez qu'il bénit. Donc vous pouvez lui demander sa bénédiction. Mais il y a des chrétiens qui n'ont plus de communion avec Dieu. De temps en temps, ils pensent à Jésus parce qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire. Mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Et je crois que qui c'est qui doit chercher l'Éternel? Le chrétien qui n'a pas de communion avec Dieu. Je ne parle pas du chrétien qui de temps en temps fait un petit coucou pour dire « je suis là ». Qu'est-ce que Dieu dit? Que l'homme d'iniquité abandonne sa voie. Voilà. Il y a des gens qui aiment Dieu et en même temps ils aiment l'iniquité. Dieu dit, voilà, que l'homme d'iniquité, vous l'avez vu avec moi, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Parce qu'au niveau des pensées, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça fonctionne beaucoup. Vous ne trouvez pas? Les pensées, c'est impressionnant, tout ce que l'on peut penser dans une journée. Oui ou non? Si un soir, je vous disais, voilà, eh bien, vous allez écrire tout ce que vous avez pensé dans la journée. Voilà. Vous savez une chose, vous n'allez pas beaucoup dormir. S'il vous faut, passer des heures et des heures à écrire tout ce que vous avez pensé. Donc, il faut veiller sur ces pensées, parce que nous avons des pensées qui nous éloignent de Dieu. Heureux l'homme qui, toute la journée, veille à rendre ses pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Heureux êtes-vous si vous veillez à vos pensées. Et, non, ça, c'est pas bien. Non, je ne pense pas à ça. Ce n'est pas bien, etc. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous le croyez que Dieu pardonne? C'est pas que Dieu pardonne, c'est que même ça va beaucoup plus loin. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça vous rassure pas, ça? Moi, une fois, j'ai entendu, tu sais, si tu fais ça, Dieu te pardonnera plus. Ouais, mais je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. Alors, quand des parents disent ça à leurs enfants, vous avez l'idée du Dieu qui leur donne l'idée de ce Dieu. Ça, c'est, vous vous rendez compte, Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne plus. Je crois que ça, c'est... Ce n'est pas de notre domaine. C'est vrai que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ça c'est un autre sujet, sont en danger. Mais mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et je peux vous dire que compte tenu de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous arrive, nous avons besoin de pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas besoin de pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « mais moi non, ma piété est telle que je n'ai jamais besoin de demander pardon ?» Il y a des gens, il y a des couples qui ont explosé. Parce qu'ils n'ont pas été pardonnés, parce qu'ils n'ont pas reçu le pardon. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu pardonner. Parce que bon, c'est vrai que c'est facile de juger, tiens, pourquoi tel couple, ceci, telle personne, celle-là. Mais moi, je crois vraiment que si quelqu'un croyait vraiment au pardon de Dieu, il aurait la facilité de pardonner. C'est vrai ou c'est pas vrai? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous avons besoin de pardon. Parfois, les gens disent, oh, moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de là. Ils se trompent. Bien sûr qu'ils en ont peut-être besoin. Mais en vérité, on a besoin de pardon. Et là, parce que la vie est faite de difficultés, de conflits, dans le couple déjà. Dans le couple, qui est marié? Est-ce que vous avez déjà eu besoin de demander pardon à votre mari? Est-ce que vous avez besoin de demander pardon à votre femme? Donc, c'est la preuve que nous avons besoin de pardon. Parce que pour pardonner, il faut d'abord recevoir. Pardonne-nous nos offenses, je ne parle pas de péché, d'offense, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, la preuve, c'est que pour pouvoir pardonner, il faut recevoir le pardon. C'est pour ça qu'il faut chercher Dieu. Si Dieu nous demande de le chercher, ce n'est pas pour nous ennuyer, c'est pas pour... encore, il y a quelque chose à faire. Mais non, c'est vraiment pour notre bien. Et les gens ont besoin de se sentir pardonnés. Quelqu'un dans sa prière disait ce matin, oh, je me sens bien, je me suis senti pardonné. Mais gloire à Dieu. C'est ça l'évangile. Quelle grâce de se savoir pardonné. Vous y croyez au pardon de Dieu? Mais est-ce que vraiment vous croyez que Dieu pardonne? Si vous ne croyez pas au pardon de Dieu, ben c'est que vous ne l'avez pas cherché. Alors comment faut-il le chercher? On l'a lu dans le Deutéronome chapitre 4. C'est de là. C'est de là, parce que Dieu fait une liste, il faudrait lire tout le contexte, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas. Ça peut arriver que dans notre vie, il y ait deux ou trois choses qui nous ont éloignés de Dieu. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Donc Dieu dit, c'est de là que tu le chercheras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Car chercher Dieu réclame que les choses soient faites avec beaucoup de sérieux, bien entendu. C'est de là, c'est exactement, je parlais du fer, où est-il tombé? Vous vous rappelez, Élisée, je veux dire, est-ce que cette question était vraiment utile? Est-ce que, franchement, pour le fer qui remonte en oblique, qui remonte droit, est-ce que c'était une grosse affaire? Non, mais le Seigneur veut qu'on comprenne qu'il faut qu'on participe à notre restauration. Où est-il tombé? Dans l'Apocalypse, cette église qui marche pourtant bien, Dieu dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Tombé. Moi, je suis tombé. Tu as, Seigneur, l'audace de me dire que je suis tombé parce que juste j'ai abandonné mon premier amour. Ben, si Dieu dit que l'abandon du premier amour, c'est une chute, mais qui je suis pour commencer à contester, à m'énerver? Souviens-toi d'où tu es tombé. Où est-il tombé? Toutes ces questions que Dieu pose, où es-tu? Comme si Dieu ne savait pas où était Adam quand il a péché. Mais Dieu voulait rétablir le contact avec Adam. Quand Dieu dit, c'est de là que tu le chercheras, ça veut dire, bon, on sait depuis quand ça ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est qui m'a poussé à boire de nouveau? Mais qu'est-ce que c'est qui m'a poussé à faire ci de nouveau? Mais c'est cette affaire, c'est ce conflit que j'ai eu avec mon patron, je l'ai mal vécu. Oh, Seigneur, je te demande pardon. C'est de là, ah, il faut que je demande pardon à mon patron. Bon, mais je vais le faire. Ah, ça ne va pas être facile. Mais je vais le faire. C'est de là que tu le chercheras. Car je vous le dis, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais peu cherchent vraiment le Seigneur. C'est de là, si tu le cherches. Parce qu'on a vite fait de prononcer la bénédiction, et ça, moi, j'y crois en plus que Dieu bénit pour rien. Mais quand on est chrétien, il y a des lois. C'est de là que tu le chercheras. Alors, s'il y a un problème, ça peut arriver. Quelqu'un, je me dis, Monsieur Gau, j'ai un conflit, je ne suis pas un bon chrétien. Je me rappelle cette chrétienne qui dit, Monsieur Gau, j'ai menti à ma responsable, je ne sais pas si je dois continuer à l'église. J'ai dit, mais allez y demander pardon. Mais allez y demander pardon. Vous croyez? Mais vous rendez compte, la honte, elle va voir que j'ai menti. Mais elle le sait déjà. Elle y a été, cette chrétienne. Elle a été voir sa collègue. Elle lui a dit, tu sais, l'autre jour, je t'ai menti. Vous savez ce qu'elle lui a répondu, la collègue? Ah, je le savais que tu étais une vraie chrétienne. Je le savais. Oui? Parce qu'elle lui a demandé pardon. Vous voyez, elle a été libérée, cette fille. Elle a compris qu'on pouvait commettre une erreur. Mais c'est ce qu'on est en train de lire. C'est de là que tu le chercheras. Et cette femme, parce que je l'avais vue, pendant 3 semaines, elle était dans un état pitoyable. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien voilà, il y a ceci, il y a cela. Et je crois qu'une erreur, on peut la réparer. Dieu ne nous dit pas, ah, tu as fait ci, tu as fait ça, mais c'était minable. Non. Tu vois, il y a ça. Eh bien, tu le chercheras et tu le trouveras. Si tu le recherches de tout ton cœur. Oui, nous avons besoin de nous appliquer à savoir où c'est que ça n'a pas été. C'est peut-être dans le couple. Ne jouez pas la comédie. Il y a des couples qui jouent la comédie, ils font semblant d'aller bien. Non, il y a un problème. Voilà, et bien réglez-le. C'est pas, vous ne seriez pas les premiers à avoir un problème dans un couple. Voilà, je t'ai dit ça, je te demande pardon. Voilà, c'est de là. Vous savez, la parole de Dieu, moi, pour moi, il n'y a rien de plus simple. Parce que quand même, Dieu aurait pu dire, écoutez, ça fait quand même 30 fois que vous me faites le coup, il y en a assez. Non, Dieu, sans cesse, ne se lasse pas de pardonner. Combien abandonnent? Combien ont abandonné? Parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Ils ont cherché la bénédiction. Parce que les responsables, les pasteurs, les chrétiens fermiers, les responsables, on est malheureux quand quelqu'un abandonne Dieu. Oui ou non? Vous n'êtes pas malheureux quand quelqu'un abandonne Dieu? Bon, eh bien, pourquoi ils ont abandonné? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Ils ont cherché la bénédiction. On va lire un verset, deux ou trois versets, pour que vous compreniez bien ce que je veux que vous compreniez. C'est important ce qu'on est en train de voir. Vous savez, moi, je n'ai pas envie que vous abandonniez Dieu. Hein. Moi, j'ai envie que vous restiez fidèles jusqu'au retour du Seigneur. C'est votre désir? Alors, dans le psaume 77, qu'est-ce qui est dit? Dans le psaume 77. Alors, dans le psaume 77, au verset 3, qu'est-il écrit? Psaume 77, verset 3. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la détresse? Ça peut arriver, la détresse? Oui, vous voyez? Au jour de la détresse. Il y a des gens dans la détresse, ils plantent tout. C'est fini, j'en ai marre, j'en ai assez, on m'avait dit que... Non, vous avez un homme, vous voyez ce que c'est l'intelligence. Au jour de la détresse, je cherche Dieu. Mais d'ailleurs, combien parmi nous, combien parmi vous, avez rencontré Dieu dans la détresse? Oui ou non? Hier, on a fait l'inhumation de M. Perron. Cet homme, les dernières semaines, a vraiment vécu dans la détresse. Il a vécu dans la détresse. Mais moi, je crois que Dieu a permis cette détresse pour que cet homme, au dernier moment, puisse crier à Dieu. Vous croyez que Dieu se moque de nous, qu'il s'amuse? Mais je crois que l'intelligence, ça consiste à dire, oui, je suis dans la détresse, ça ne va pas bien. Mais au jour de la détresse, je cherche le Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, parce que beaucoup d'entre nous, si nous n'avions pas connu la détresse, nous ne serions pas là. Quand on est dans la détresse, ça peut arriver. Vous n'avez pas en face de vous un Dieu qui vous accable, un Dieu qui vous juge. Quand vous êtes dans la détresse, vous avez un Dieu qui vous aide. Vous entendez, mes frères et sœurs? Si vous avez cherché Dieu, vous savez que dans la détresse, il ne va pas vous repousser. C'est nous qui nous éloignons de lui. Et nous avons là le caractère de l'homme intelligent. Dans la détresse, il cherche le Seigneur. Oui, Dieu n'est pas là pour nous juger. Dieu est là pour nous aider. Tant que nous sommes dans les psaumes, regardez, là c'était Asaph, un autre, qui c'était? David. Dans le psaume 63, lui, il est là. Ah, il est dans le désert. Ah, ce désert. Le désert. Vous aimez qu'on parle du désert? Ouais. Il est dans le désert. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un quand même. Il ne faut pas comparer les gens, mais quand même. C'est quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Alors on le lit, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il ne cherche pas la bénédiction, il cherche la présence de Dieu. Combien de chrétiens se sont rebiffés dans le désert? Ah, moi, je n'accepte pas le désert. Eh bien, vous voyez, ça, c'est la preuve que quelqu'un n'est pas intelligent. Je parle au niveau spirituel. David, vous le connaissez, c'était un homme sensible. Malgré, bon, les quelques erreurs qu'il a faites, c'était un homme sensible. Mais voilà ce que c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est de dire, ben oui, je suis dans le désert. Ça ne me plaît pas du tout. Mais je veux avoir un cœur tendre. Peut-être que vous êtes dans le désert. Eh bien, soyez intelligent. Cherchez le Seigneur. Ne cherchez pas la bénédiction. Cherchez le Seigneur. Est-ce que David a eu raison de chercher Dieu dans le désert? Mais lisez la suite. Et vous verrez que ça vaut la peine de chercher Dieu quand on se trouve dans le désert. Ne vous fâchez pas. Ne me remettez pas tout en question. Les toits, c'est ça, j'en ai marre. Vous savez, on a l'impression parfois que c'est des gens qui ont du caractère, de la personnalité. Mais non, c'est un manque d'intelligence. Quand vous connaissez Dieu, vous savez que dans la détresse, là où je me suis trompé, dans le désert, je n'ai pas un Dieu qui me juge. J'ai un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Connaissez-vous ce Dieu-là? Pourquoi David a été cet homme? Eh bien, parce que voilà, dans la détresse, dans le désert, eh bien, il cherchait Dieu. Je te cherche. Il n'est pas en train de dire, oh, je cherche de la bénédiction, je cherche de l'eau, je cherche, voyez, je cherche pour moi. Je cherche Dieu parce que on est tellement influencé. Je prends un exemple. Une infirmière a perdu son travail. Est-ce que ça peut arriver qu'une infirmière perde son travail? Elle va dire, Seigneur, mais donne-moi, tu vas faire concourir tout ça, mon bien, donne-moi un poste où j'aurai un meilleur salaire. Est-ce que ça peut être fait, ça? Mais peut-être que l'infirmière, elle a perdu le boulot, parce que Dieu veut l'amener à mission. Travailler, tiens, avec Madame Bordeneuve, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que Dieu dirige? Alors, oh non, 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 je suis perdant dans l'affaire. Eh bien, c'est que vous ne le connaissez pas. Moi, je vous le dis mal, je le sais. Mais moi, je vous dis que si vous pensez que Dieu va vous demander quelque chose qui va vous nuire, c'est que vous ne le connaissez pas. Croyez-moi. Soyons sensibles. Demandons à Dieu cette sensibilité. On ne l'a pas toujours, cette sensibilité, oui ou non? On le voit bien des fois. Seigneur, donne-moi un cœur tendre. Donne-moi un cœur sensible. Donne-moi un cœur intelligent. Que je sache, dans les détresses, dans les déserts, que je sache te chercher. Vous connaissez ce texte? Moi, c'est un texte qui m'a interpellé. C'était M. Chrétien qui avait prêché là-dessus une fois. Il avait prêché sur ce verset. Il y a ici quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est dans l'évangile de Jean. Dieu dit, il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais moi, ça a fait l'effet d'une bombe, ce verset. Mais c'est exactement ça. Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Vous en êtes sûr? Vous le sentez? Vous le sentez, Madame Delavre? Pourquoi vous savez qu'il est là? Parce que vous aussi, vous me posez des questions souvent. Alors moi, je vous en prie. Parce qu'il l'a dit. Dieu l'a dit. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la vérité. Mais combien parmi nous? Alors je ne sais pas, je ne veux pas savoir en plus. Mais combien parmi nous n'en sont pas si convaincus que ça? Parce qu'ils ne le sentent pas, parce qu'ils ont passé une mauvaise semaine. Si Dieu était au milieu de nous. Voilà comment ça commence. Moi, je vous dis, de toute façon, qu'on ne peut pas fuir Dieu, qu'il est partout. Il n'agit pas partout, mais il est partout. Et Dieu est au milieu de nous. On chante « Jésus est au milieu de nous », mais combien de chrétiens, je le sais, hélas, hélas, je le sais. Parce que les gens le chantent, mais sur le pas de la porte, je vois bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'ils ne le croient pas. Jésus l'a promis. Alors, si ce que vous pensez est plus important que les promesses que Jésus a faites, eh bien, c'est bien. Et c'est bien. Vous avez compris ma façon de parler. Mais combien le prix? Combien le prix? Et ne le connaissent pas. Mais je pense que les pasteurs, ils sont pour quelque chose. Nous n'avons pas fait bien notre travail de pasteur. Parce qu'on a enseigné les gens à chercher la bénédiction à la place de chercher Dieu. Mais combien l'adorent et ne le connaissent pas? Parce que, écoutez, moi j'en ai souffert, j'en ai même pleuré, je le dépose. Parce que je sais que ça va pas, ça peut pas aller de le garder. Mais combien prie Dieu? Moi j'ai vu ici des gens prier avec des paroles, c'était un truc de fou. Et pourtant ils ne le connaissaient pas. Combien le prie, lui demande certaines choses. Parce que c'est pas parce qu'on le prie, c'est pas parce qu'on l'adore, c'est pas parce qu'on prêche, c'est pas parce que si, parce que là, c'est pas parce qu'on a fait une belle expérience qu'on connaît Dieu. Quand on connaît Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Quand quelqu'un connaît Dieu, il sait que c'est merveilleux. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, c'est merveilleux. J'ai mes déserts, j'ai mes détresses, mais je connais le Seigneur. Heureux êtes-vous si vous pouvez dire « je connais le Seigneur ». Parce qu'on peut connaître des centaines de versets par cœur. Moi, j'ai connu une sœur, Albi, qui connaissait, c'est une façon de parler, elle connaissait la Bible par cœur. C'était impressionnant. Moi, j'étais époustouflé. Et quand je suis rentré pasteur en formation, et que j'ai discuté avec elle, je me suis posé des questions. Je me suis dit « mais c'est pas possible ». Elle connaît la Bible par cœur, elle ne connaît pas Dieu. Mais je vous assure que c'est vrai, je n'exagère pas. Mais moi, ça m'a. J'ai dit, c'est pas possible, c'est un problème. On peut connaître des cantiques par cœur, on peut connaître des versets par cœur et ne pas connaître Dieu. Connaître Dieu, tiens. Est-ce que vous connaissez l'amour de Dieu? Puisque Jésus a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jésus était au milieu d'eux. Et d'ailleurs, quand vous voyez comment ils l'ont traité, vous savez bien qu'ils ne croyaient pas que c'était ce que c'était Dieu. Bon. Mais qu'est-ce que je connais de son amour? Bon, on l'a entendu ce matin à la Sainte Cène, ça a été très bien expliqué. Voilà. Que connaissez-vous de l'amour de Dieu? Ce matin, répondez-vous vite, vite, vite. Qu'est-ce que vous connaissez de l'amour de Dieu? La Bible dit que son amour, je le lisais ce matin encore, son amour est tellement grand qu'on ne peut même pas mesurer les dimensions de son amour. C'est écrit que l'Esprit de Dieu peut nous montrer quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Mais en fait, je pense qu'on n'est pas sorti d'affaire. L'amour de Dieu est éternel. L'éternité ne nous suffira pas pour découvrir son amour. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ça? Que l'amour de Dieu est éternel, que son amour est si grand, bien sûr, quand, que si on le compare au nôtre, de suite on est mal. Mais mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est si grand. Vous pensez que Dieu vous aime? Comment ça se fait? Parce qu'on le sait, mais comment ça se fait que sur la croix, il ne soit pas descendu? Est-ce qu'il pouvait descendre de la croix? C'était pas un problème pour le Seigneur. C'était quand même... C'est grave ce qu'il a vécu. Est-ce qu'il pouvait descendre? Dans le jardin de Gethsémané. C'est affreux tout ce que Jésus a vécu. Est-ce qu'il aurait pu réclamer des légions d'anges pour le délivrer? Pourquoi il n'a pas fait? Il avait dans l'invisible, il devait y avoir des anges plus puissants les uns que les autres qui attendaient que ça, d'intervenir. C'était quand même leur créateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous ces anges, il les connaît tous, le Seigneur. C'est lui qui les a créés. Il les connaît tous par leur prénom, on ne se rend pas compte. Il les connaît tous. Et tous ces gens, je dois l'aimer et l'adorer en permanence. Et pourtant, pourquoi Jésus n'a pas demandé que des anges l'aident? Vous vous rendez compte, ça, le scoop que ça faisait? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'il nous aime. Est-ce que vous croyez à cet amour-là? Vous le croyez, cet amour? Que Jésus n'a rien dit à la croix, dans le jardin de Gethsémané, et on pourrait multiplier. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu vous aime. Est-ce que vous connaissez cet amour? Peut-être que vous ne le connaissez pas. Pas assez. Cherchez l'Éternel. Cherchez-le. Ne cherchez pas la bénédiction. Ne cherchez pas que la bénédiction. Ne cherchez pas que vos intérêts. Ne cherchez pas que vos avantages. La Bible est catégorique. Cherchez l'Éternel. Pourquoi tant de chrétiens abandonnent? C'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas son amour. Je parlais du pardon, parce que le pardon, c'est une affaire encore plus grave. Moi, quand je vois des foyers qui éclatent souvent, je me dis, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le pardon. Bon, il n'y a pas que ça. Mais quand même, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu ne se lasse pas de pardonner? Moi, je le crois. Est-ce que vous connaissez son pardon? Est-ce que vous connaissez sa puissance? Est-ce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui guérit? Sa souveraineté, Dieu a béni l'oncle de monsieur Gadrois. Dieu a repris monsieur Perron. Est-ce que vous croyez que Dieu est juste? Mais bien sûr, Dieu sait ce qu'il fait. Si nous voulons connaître son amour, parce que je crois qu'on peut découvrir son amour, si on veut davantage connaître son pardon, si on veut connaître davantage sa puissance, si on veut connaître davantage sa fidélité, etc., il faut chercher l'Éternel. Car le texte est sévère. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il y a un temps, on ne pourra plus trouver Dieu. Il y a des gens qui sont très intelligents et qui disent, si Dieu est vivant, on verra après. On le cherchera après. Et après, ça sera trop tard. Et ça vous montre la bêtise et l'aveuglement des gens. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce que mes frères et sœurs, même si on n'obtient pas toutes les bénédictions qu'on demande, quand le jugement s'abattra sur la terre, parce que vous le savez quand même, il y a les épreuves, il y a nos petites tempêtes, mais il y aura un jour la grande tempête, il y aura un jour le grand jugement. Combien regretteront de ne pas avoir pris cette parole au sérieux? Parce que c'est une parole sérieuse, elle est en deux ou trois mots, comme vous voudrez, chercher l'Éternel. Alors c'est vrai qu'on a des spécialistes qui disent « Oh, moi j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé ». Eh bien je suis désolé, ce n'est pas vrai. C'est qu'ils ne l'ont pas cherché. Parce que quand on a le culot de dire « Ah ben je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé », moi j'ai le culot de répondre « Eh bien c'est parce que vous ne l'avez pas cherché ». Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Alléluia, c'est écrit. C'est ce que Dieu dit qui prévaut sur ce que nous on pense. Celui qui me cherche, il me trouve. Alors, c'est sur la terre qu'il faut le faire. Et je m'adresse aux inconvertis, vous qui n'avez pas pris le baptême ce matin. Mais est-ce que vous avez compris qu'il vous faut... Les chrétiens doivent le chercher. Mais les pécheurs doivent, à combien plus forte raison, le chercher. C'est quelque chose de sérieux. L'Église, quelqu'un me disait un jour, une jeune fille, tiens, je pense à cette jeune fille. Une jeune fille me dit, oh monsieur, moi vos prédications, je ne les supporte plus. Vous êtes tout le temps en train de nous remettre en question. Ah, elle m'appelle 8 jours après. Ah, oh, monsieur, j'ai trouvé une église. On ne fait que danser, on ne fait que chanter. C'est sérieux, hein? Mais écoutez, mais si ça vous plaît. Elle m'a rappelé 2 ans après. Elle est en pleine nuit. Elle avait été tapée par son gars qui l'avait mise enceinte. Elle était dans le froid, à la rainerie, sur un banc, je me rappelle. Elle était là, toute grelottante. Elle me dit, monsieur Go, j'ai été folle. Elle était là. Elle avait je m'en rappelle, son grand. Je l'ai amenée chez une sœur pour qu'elle s'occupe d'elle. Elle s'est occupée d'elle. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue. parce qu'on ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. Moi, je crois que c'est extraordinaire de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Quand Dieu dit « Cherchez l'Éternel », vous pouvez croire que c'est pour votre bénédiction. Et nous pourrions prendre des textes. Et des textes, faites-le si vous avez une concordance. Si vous avez une internet, vous pouvez tous avoir la concordance, concordance biblique. Et tac, et vous avez de suite, et vous trouvez tous les mots où il demandait tous les verbes, où il est parlé de chercher l'Éternel. Mais par exemple, Esdras 8, 22, la main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa colère est sur tous ceux qui l'abandonnent. La main de notre Dieu est sur ceux qui le cherchent. Dieu a une main. Vous savez que Dieu a des mains. Il a des mains pour bénir. Et il a prouvé au calvaire, n'y revenons pas. Mais mes frères et sœurs, Dieu a une main pour bénir. Et si vous ne connaissez pas cette main qui bénit, cherchez Dieu. Dieu a une main qui bénit. Lamentations 3, 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Vous le croyez? Si vous cherchez Dieu, vous allez obtenir la bénédiction. Il ne faut pas prier du bout des lèvres, Seigneur. Je ne sais pas si c'est vrai. On m'a dit que, mon mécanicien m'a dit que tu peut-être tu n'entendais pas les prières. Écoutez, ce n'est pas le mécanicien qui vous fait écouter. Non, mais il y a des gens qui sont capables d'aller voir des inconvertis pour demander des conseils. Je dis, mais il ne faut pas donner des conseils à un inconverti. Il vaudrait mieux demander à des chrétiens qui ont de la vraie piété. Ah, vous croyez? L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Et je vais terminer avec cette pensée. Parce qu'il faut arrêter de faire des prières toutes faites. C'est ça la religion. La religion, c'est je fais des prières, je récite des prières. La piété, la spiritualité, c'est de dire je prie de tout mon cœur. Cette prédication, je l'ai mise en place parce que j'ai entendu un jour un chrétien dire oui, Dieu ne m'écoute pas. Je le prie, et il est dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, je prie, ça ne sert à rien. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais oui, il a raison. Il n'est pas dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui prient. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'il y a des prières toutes faites. Mais si vraiment, dans notre âme et conscience, nous nous mettions à dire, bon, je vais te chercher, à toi, je vais chercher ta présence. Parce que pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est, ils ont un souci, aide-moi. Ils sont malades, guéris-moi. Ils ont un problème de boulot, donne-moi un travail. Tout ça, il faut le faire. Mais ce n'est que ça. Vous comprenez pourquoi les églises n'ont pas la maturité qu'elles devraient avoir. Bien sûr que si vous avez un problème de maladie, vous pouvez dire au Seigneur, guéris-moi. Vous êtes d'accord? Mais chercher Dieu, c'est quelque chose qui vous amène dans le... C'est parce que vous êtes dans le repos, c'est parce que vous cherchez Dieu. Je disais cette semaine à des chrétiens, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y a des chrétiens qui arrivent à 20 ans, 18, 17, 21 ans, ils prennent le baptême, ils n'ont jamais assisté à une réunion de prière. Alors nous, on ne peut pas ne pas les baptiser. Si quelqu'un a accepté Jésus comme sauveur, eh bien, c'est les gens qui se font baptiser. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi, des fois, je m'interroge sur mon propre ministère. Et je me dis, mais est-ce qu'on amène les gens à connaître Dieu? Est-ce que les gens cherchent la bénédiction ou est-ce qu'ils cherchent Dieu? Je vous assure, moi, je réfléchis tout haut. Et je nous pose la question, les jeunes, les moins jeunes, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prions? Parce que, comme on le connaît et comme on est ses enfants, on sait très bien que Dieu va nous bénir. Mais est-ce que nous le cherchons? Parce que c'est écrit, c'est pas une blague, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous pourrions prendre, bien sûr, d'autres exemples. C'est infini. Prenez une concordance et vous le vérifierez. Mais mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps compliqués. Vous le croyez? Nous sommes dans des temps difficiles. Et la seule solution, on va le lire maintenant, la conclusion, c'est dans le prophète Osée. Je voudrais qu'on lise ces textes. Dans le prophète Osée, il y a la conclusion de cette prédication. Lisez-le avec moi. Daniel, c'est après Daniel. Vous savez, les grands prophètes, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée. Osée chapitre 4. Il y a un problème dans le peuple d'Israël, parce que justement, il n'y a pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas cherché Dieu. On se dit, pourquoi? Mais comment ils en sont arrivés là? Eh bien, c'est parce qu'ils cherchaient la bénédiction. Et dans Osée au chapitre 4, le verset 1er, vous avez l'explication. L'explication, vous y êtes? Chapitre 4, verset 1er. Écoutez, la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Vous pourrez dire, écoutez la parole de l'Éternel, chrétien de Toulouse. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. C'est terrible ça, quand Dieu a un procès avec son peuple. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Mais ils n'avaient pas abandonné le culte. Tous allaient au culte. En plus, c'était obligé. Tous allaient au culte. Ils devaient être, mais certains disent, mais qu'est-ce qu'il a osé? Il ne va pas bien. On va tous les dimanches, tous les samedis au sabbat, et il nous raconte qu'on ne connaît pas Dieu. C'est exactement ce que je vous suis en train de vous expliquer. C'est que les gens cherchent la bénédiction et ne cherchent pas Dieu. Alors la solution, elle est au chapitre 6. Au chapitre 6, on va lire les trois premiers versets et le verset 6. Mais regardez bien, parce que Dieu ne fait pas des procès et des reproches sans solution. Les hommes le font. Un homme est capable de dire, tu ne vois rien, tu t'es trompé, stop. Mais Dieu, lui, dans sa bonté, il nous dit, tu t'es trompé, voilà ce qu'il te faut faire maintenant. Venez, retournons à l'Éternel, car il est déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons, je le relis, cherchons à connaître l'Éternel. Pas des méthodes et des trucs. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verset 6. Car j'aime la miséricorde ou la piété, selon les versions. La piété, je mets la piété, et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu n'a pas envie que je sois un bon prédicateur. Parce que ça, c'est ça les holocaustes, les sacrifices. Dieu veut que je le connaisse. Je ne dois pas être intéressé par bien prêcher. Je dois être intéressé par le connaître. Et c'est pareil pour vous. Vous ne devez pas être intéressé, Michael, à être un meilleur pianiste. Ou vous, Jonathan, à être meilleur contrebassiste. Vous devez vous appliquer à chercher Dieu. Et c'est valable pour tout le monde. Parce que quand vous cherchez Dieu, vous êtes dans le repos. Quand vous cherchez Dieu, vous savez ce que Dieu attend. Je parlais de l'infirmière. Oui, l'infirmière, vous rendez compte, si Dieu me demande quelque chose. Oh, si Dieu me demande quelque chose, qu'est-ce qu'il ne va pas me demander ? Mais quand j'entends ça, moi, ça me fait pitié. Quand j'entends un chrétien qui dit « Oh, j'ai peur que Dieu me demande quelque chose que j'ai pas le temps. » Mes frères et sœurs, la personne ne connaît pas Dieu. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Si Dieu vous demande quelque chose, vous croyez que Dieu se moque de monsieur et madame Bordeneuve qui partent dans ce désert du Niger? Vous croyez que Dieu se moque d'eux? Vous croyez qu'ils sont tout le temps en train de dire oh, « Pourquoi tu nous as envoyés? Pourquoi tu ne nous as pas envoyés dans tel pays où il y a plein de fraîcheur ?» Vous croyez que Dieu se moque d'eux? Mes frères et sœurs, sérieusement, vous qui servez plus Dieu, vous qui avez perdu le fer, vous qui avez tout perdu, vous avez peur que Dieu vous demande quelque chose? Ah mais vous savez, mes enfants, ils font du piano, mes enfants, ils font de la guitare, mes enfants, ils font du judo. Bon, le vendredi soir, c'est le sinoche. Le samedi, c'est la cafette. On a du temps pour ça. On n'a pas de temps pour Dieu. Moi, je ne juge pas. Je sais seulement une chose, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, moi, je peux vous dire que le service, c'est une bénédiction. Servir Dieu, c'est une joie. Ah, moi, les gosses de l'école d'image, ah, moi, j'en peux plus. Ils m'énervent, ces gosses. Eh bien, ouais. Mais peut-être un jour, il y aura le vôtre. Pire. Pire. Moi, j'ai des animatrices qui ont eu Lucas dans leur classe. Eh bien, Lucas, il s'est converti. Ils ont eu Lucas. Elles sont toujours fidèles. Et il s'est converti. Mes frères et sœurs, si vous avez peur que du service, c'est que vous ne le connaissez pas. Si vous avez peur de vous engager dans l'église, de faire une activité, moi je vous le dis, c'est que vous ne le connaissez pas. Car moi je crois qu'il y a beaucoup de joie pour ceux qui servent le Seigneur. Je crois qu'il y a d'abondante joie devant la face de Dieu. C'est sûr que si vous dites Seigneur bénis-moi, bénis-moi, vous pouvez dire la prière, ça me saoule. Mais on l'entend ça, on l'entend. Moi je crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Du temps d'oser, ça allait vraiment mal. Mais il y avait la solution. De notre temps, ça va vraiment mal. Mais il y a la solution. Il n'y a personne qui pourra se présenter devant Dieu avec une grande voix et dire « Seigneur ci, Seigneur là ». La seule chose qui se passera, c'est qu'on regrettera de ne pas avoir cherché l'Éternel suffisamment, vous et moi. Alors fermons les yeux, fermons les yeux. Je vais demander à Monsieur Blanc de venir à ma place, s'il vous plaît, prier. Je voudrais de demander de l'aide. Le Seigneur a dit je t'aiderai. C'est écrit dans l'Hébreu chapitre 13. Le Seigneur lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai ton aide. Est-ce que vous voulez que Dieu vous aide? Peut-être que Dieu vous a parlé. Peut-être que vous êtes très léger. Très, très, très léger. Alors j'aimerais qu'on termine avec cette prière avant de chanter ce dernier chant, ton nom. Car dans ce chant, ça résume tout l'enseignement de chercher la présence du Seigneur Jésus. Voilà, chantons, prions, et je demanderai à Jérémie de venir faire chanter ce cantique, ton nom, de Paul Baloche. Les musiciens, s'il vous plaît.